dernière, j'ai amené quelques éléments, on pourrait dire, d'anthropologie, pour montrer même le sens, la portée de ce qu'on appelle sacrifice, je dirais même au niveau de la constitution de la société humaine, rapport à Dieu, et qui permet précisément d'avoir un juste rapport les uns avec les autres. Et avec Antoine Vergotte, on en arrive ceci, que s'il y a une grammaire au sacrifice, elle est bien de cet ordre-ci, hein, c'est que l'homme donne de ce qu'il a reçu, il donne de ce qu'il a reçu, et le don qu'il fait ne profite en rien à la divinité à laquelle il le fait, ou si on veut, à Dieu à qui il le fait. Donc voilà, c'était sur l'arrière-plan. Alors aujourd'hui, nous allons un peu, parce que bon, c'est aussi intéressant, hein, on va faire un peu de ce qu'on appelle de patristique. Il y a l'écriture, il peut y avoir la théologie moderne, il y a ce que les pères de l'Église ont dit, ont fait. Hein. Et donc, comme vous le voyez sur la feuille, eh bien, nous arrêterons d'abord à Irénée de Lyon, et après ça, eh bien, à Augustin, avant de passer au deuxième millénaire avec saint Thomas. Et cela va nous mener, la semaine prochaine, précisément, à la crise du sacrement lui-même, suite à la contestation de Luther. Donc, ce sera extrêmement intéressant, instructif de voir eh bien, en quoi Luther a refusé ce que nous appelons le sacrifice de la messe. En gros, vous le voyez bien, je répète, en toute Eucharistie, hein, eh bien, nous disons, nous souvenant de ta mort et de ta résurrection, nous t'offrons, hein, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te demandons, hein, à la fois d'envoyer ton Esprit Saint pour consacrer le pain et le vin, et en même temps, eh bien, faire de nous, eh bien, un seul corps, hein, un seul esprit dans le Christ. On voit bien, il y a des actes. Hein. Nous offrons, nous demandons. Et le problème avec Luther sera précisément là, hein, jusqu'à quel point, comme il le dira lui-même, l'Eucharistie peut être un acte, hein, une œuvre, hein, puisqu'il n'y a qu'une œuvre, et c'est celle, eh bien, du Christ qui est mort en croix pour nous. Mais enfin, nous n'en sommes pas là, hein. Nous en arrivons, nous allons prendre tout simplement, eh bien, comme je vous disais, d'abord Irénée, et après ça, eh bien, Augustin. Mais pour commencer, je reprends tout de même, on a eu un texte, hein, de Justin, qui nous disait comment, dans les années 150, l'Eucharistie était célébrée. Eh bien, voilà un texte de Justin qui montre combien, à ce moment-là, hein, la manière dont on avait conscience, hein, que l'Eucharistie elle-même est sacrifice. Je vous lis, hein, avec son, non pas son vocabulaire, mais sa manière de s'exprimer. Hein, c'est une manière de nous rappeler un petit peu aussi bien ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors il dit ceci. Tous les sacrifices sont donc faits au nom, alors il parle à un juif, quoi, hein, pour dire ce que nous faisons. Tous les sacrifices sont donc faits au nom de cet homme. Sacrifice que Jésus-Christ nous a prescrit de faire. On voit bien, si on les fait, eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Bon, c'est suite à un commandement de sa part. Je reprends la phrase. Tous les sacrifices sont donc faits au nom de cet homme. Sacrifice que Jésus-Christ nous a prescrit de faire. C'est-à-dire, quels sont ces sacrifices? Ce sont ceux de l'action de grâce, du pain et du vin. et que les chrétiens offrent en tout lieu de la terre. Ce sont ceux de l'action de grâce. Dieu témoigne par avance qu'il lui était agréable. Il refuse par ailleurs eh bien, celui de vos prêtres. Non. Le texte continue. Et que des prières et des actions de grâce faites par des hommes dignes soient les seuls parfaits sacrifices et les seuls agréables à Dieu, je l'affirme. Parce que derrière cela, il y a une phrase de Malachie qu'on retrouve dans le canon romain, enfin, et dans les prières orientales aussi, hein, qui disait que viendra ce moment où en tout lieu, toute nation, eh bien, il y aura une offrande pur qui sera offert au Seigneur. Vous voyez, il y a les sacrifices d'Israël et maintenant il y a celui qui vient en tout lieu. Et le texte continue. Car ce sont ceux-là seuls que les chrétiens ont reçu à tradition d'offrir. Donc, celui du pain et du vin, de l'action de grâce sur la coupe, alors qu'ils commémorent aussi la passion que souffrit pour eux le Fils de Dieu. On voit bien, ça a donc un rapport, comme le canon, hein, les prières eucharistiques le disent, eh bien, avec la mort et la résurrection du Christ. Voilà, non, c'est dans les années 150, on voit, c'est clair. Alors vient alors, donc d'abord, Irénée. Vous avez, sur votre feuille, je vous donne, voyez-vous, Irénée, probablement, on ne sait pas exactement, mais c'est entre les années 130 et 208. Hein. Irénée est né quelque part en Asie mineure, mais enfin, il s'est retrouvé, Irénée de Lyon, hein, il s'est retrouvé à Lyon. Il est le premier, peut-on dire, grand théologien de l'Église. Il est celui eh bien, qui précisément eh bien, a su combattre ce qu'on appelait la gnose, c'est-à-dire toutes ces élucubrations qu'on faisait. On s'emparait, si on peut dire, des évangiles et tout ça. On y voyait tout de même soit l'Ancien Testament, soit le domaine du mal. On était là tout simplement, autrement dit, à partir de l'évangile, à faire des théories. Et le propre d'Irénée, et de fait, il est irénique de ce point de vue-là, il porte vraiment son nom. Hein. Ça a été toujours de rappeler, si on peut dire, les paroles du Christ, hein, et de montrer le lien qu'il y a entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, plus précisément encore, entre la création et finalement, il y a l'histoire du salut. Et une de ses forces, c'est précisément celle-là, c'est de, comme il le dit, hein, il n'est pas comme saint Paul, hein, qui est là, péché, grâce. Pour lui, eh bien, dans tout l'Ancien Testament, eh bien, Dieu, Yahvé, a été là à éduquer, à accoutumer, peut-on dire, hein, son peuple, eh bien, à d'abord accueillir le Verbe de Dieu. Et avoir Dieu. Donc, je cite ici donc Louis-Marie Chauvet, qui est tout de même spécialiste de l'Eucharistie, qui dit ceci, hein, il parle donc à la fois d'Irénée et d'Augustin, et il dit, tous deux présentent l'Eucharistie comme la grande pédagogie, hein, l'Eucharistie comme la grande pédagogie, où l'homme apprend à servir Dieu, ça c'est Irénée, ou encore une pédagogie où l'Église elle-même apprend à s'offrir elle-même par lui. Donc servir Dieu ou encore apprendre à s'offrir soi-même pour Dieu. Et l'un comme l'autre, eh bien, ont ce comme point de départ, comme je disais, ce double, ce principe qu'on avait chez Bergotte. À savoir, eh bien, que l'homme donne de ce qu'il a reçu et que son offrande profite non pas à celui à qui il l'offre, mais à celui qui offre. Donc, du côté d'Irénée, eh bien, ce qui est premier, peut-on dire, c'est l'oblation de l'Église. C'est ce que l'Église offre, peut-on dire, dans sa réalité objective. Il y voit même un condensé, peut-on dire, de la foi chrétienne. Bon. Du côté de, après ça on va voir avec Augustin, c'est moins l'oblation, ce que l'Église offre, mais je dirais, c'est la manière dont l'Église s'offre, c'est le sujet lui-même qui offre. Et alors, et en offrant, eh bien, se découvre offert par Dieu lui-même. Donc, voilà un point de départ. Alors, et l'un et l'autre, bien entendu, j'ai déjà fait allusion rapidement au livre du Lévitique, au sacrifice de l'Ancien Testament. Eh bien, l'un et l'autre, aussi bien Irénée que, ensuite, comme on le verra rapidement avec Augustin, eh bien, c'est de se situer par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. Autrement dit, pour Irénée, eh bien, Dieu est toujours présent à l'œuvre de création par l'entremise de son Verbe. Et comme je vous disais, il est là à éduquer l'homme au sacrifice véritable, celui eh bien, que nous célébrons dans l'Eucharistie. Irénée dira, Dieu veut le sacrifice. Et pour cela, déjà, le sacrifice d'Abel le rappelle. La loi en précise les modalités. Et pourtant, en même temps, eh bien, si Dieu veut le sacrifice ou l'oblation, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour l'homme, celui qui l'offre. Et dans la mesure où précisément on fait les sacrifices, en négligeant la justice, en se détournant de l'amour de Dieu, en s'imaginant que par ces sacrifices on a une prise sur Dieu lui-même, eh bien à ce moment-là, Dieu rejette les sacrifices. Mais alors voilà notre cher Irénée, qui est bon, il dit, il rejette les sacrifices, mais en même temps, il accompagne toujours son rejet de bons conseils, et qui rappelle à l'homme ce de fait, par quoi il peut s'approcher de Dieu. Alors il dit ceci, Yessi avait pitié de leur aveuglement dans l'Ancien Testament et enseignait le sacrifice véritable par lequel, l'offrande duquel, il se rendrait favorable et obtiendrait de lui la vie. Donc, il y a les sacrifices véritables. Et de fait, eh bien, il faut que Dieu éduque de façon à pouvoir offrir, parce que dans l'Ancien Testament, il y aura toujours des sacrifices de victimes. Or, voilà, vous vous rappelez, quand j'ai commencé à parler sur le sacrifice, j'ai évoqué le psaume 50, où il est dit, ben, tu n'as pas voulu d'offrande, je t'offre mon cœur brisé et tout ça, voilà. Et pourtant, dernière phrase, et on offrira des taureaux sur ton autel. Voyez-vous, une fois que l'attitude est juste, eh bien, on peut avec allégresse offrir des taureaux sur l'autel. Autrement dit, des sacrifices réels. Donc, autrement dit, ce qui est important, comme le dit le psaume 50, et qui de fait constitue le vrai sacrifice, dira Irénée, c'est faire le bien, rechercher la justice, venir au secours du pauvre et de celui qui souffre la justice. Au fond, il rappelle à ce moment-là une phrase que vous connaissez, qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, je crois, où de fait Jésus dit, je ne veux pas les sacrifices, mais la miséricorde. Je veux la miséricorde plus que le sacrifice. Et voilà, c'est cela, il a fallu tout l'Ancien Testament pour éduquer, peut-on dire, eh bien, à ce moment où eh bien, on pourra avoir l'oblation pure pour toutes les nations et qui est celle, eh bien, de l'Eucharistie elle-même. Je voudrais seulement, voilà pour dire les choses, je voudrais seulement, comme je l'ai marqué là sur la feuille, eh bien, dégager trois idées forces de la théologie d'Irénée, à la mesure où elle est encore pour nous. C'est pas ancien, ça peut encore nous enseigner. Alors, la première, je dirais, c'est que l'oblation, parce qu'il n'emploie pas tellement le mot sacrifice, c'est le mot oblation. L'oblation, eh bien, est une action de grâce. Je lis le texte suivant. Retenez un peu les mots, parce que c'est le moins. Hein. À ses disciples, alors, parce qu'on a parlé de bons conseils, hein, voilà, hein, Dieu a donné le bon conseil, et lequel? D'offrir à Dieu les prémices de ses propres créatures. Donc, d'offrir ses propres créatures. Non que celui-ci en eut besoin, mais la phrase suivante, mais pour que eux-mêmes ne soient ni stériles ni ingrats. Ni stériles, c'est-à-dire qu'ils puissent porter du fruit, ni ingrats, eh bien qu'ils puissent vivre dans l'action de grâce. Hein. Donc, être fécond et en même temps être capable de rendre grâce. Et le texte continue. Le pain qui provient de la création, vous voyez bien le rapport pour Irénée constant entre la création et alors, eh bien, ce que le Christ a fait. Le rapport entre le Père, qui est le Créateur, et le Verbe, en qui tout a été créé. Le texte, le pain qui provient de la création, il le prit et rendit grâce en disant, ceci est mon corps. Vous le voyez, c'est la prière d'action de grâce, de bénédiction. Et il enseigne quelle est l'oblation nouvelle de la nouvelle alliance. Voilà. En disant cela, hein, en rendant grâce, hein, sur le pain qui provient de la création. Et le texte en continue, c'est cette oblation, ce que le Christ a fait, que l'Église a reçue des apôtres, et dans le monde entier, elle offre au Dieu qui nous donne la nourriture comme prémisse des propres dons de Dieu sous la nouvelle alliance. Autrement dit, on offre à Dieu, celui qui nous offre la nourriture, on voit bien, cette nourriture comme prémisse de ses propres dons, et son propre don, la nouvelle alliance, mais ça sera, hein, c'est tout de même, eh bien, le pain de vie, hein, c'est le corps et le sang du Christ. Donc, retenons cela, ne pas être stérile, être fécond, et en même temps, eh bien, et être capable de rendre grâce. Je dirais, c'est la première chose qu'on voit. Irénée est encore, c'est les années donc 105 ans, on voit bien qu'elle est encore très proche des événements ou de la célébration, telle que Justin lui-même eh bien, nous la rappelait. Alors, un deuxième trait à retenir, peut-être, c'est le suivant, voyez-vous, hein, je le mets sur la feuille ici, hein, eh bien, c'est l'oblation d'homme libre. Autrement dit, malgré tout l'Ancien Testament, bon, il était, donc, on était encore sous la loi, hein, il fallait faire des sacrifices, enfin, de bêtes, d'animaux, tout cela, bon. On n'arrivait jamais, finalement, à avoir les dispositions qu'il fallait pour les faire. On était encore, autrement dit, sous le domaine de la loi, et donc, peut-on dire, eh bien, de l'esclavage. Or, eh bien, l'oblation nouvelle, celle qui est au cœur de l'Eucharistie, eh bien, elle est sous la loi de la liberté, ceux qui vivent dans l'esprit. Et alors, voilà comment il en sort de cela. Donc, je ne sais pas, ça dit la phrase suivante. Hein. S'il n'y a en fait qu'un seul et même Seigneur, c'est évident, Ancien, Nouveau Testament, il n'y a pas moins un caractère propre à l'oblation des esclaves, donc Ancien Testament. Testament, et un caractère propre à celle des hommes libres, pour que jusque dans les oblations se manifeste la marque distinctive de la liberté. Et en quoi elle se manifeste? Voilà, ça pourrait nous surprendre un peu. Hein. Elle se manifeste en quoi? Autrement dit, les Juifs, eux, tout au plus, s'acquittaient de la dîme. Et Irénée continue. Ceux-là même qui ont part à la liberté mettent tout leur avoir à l'usage du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme la communauté primitive, là, hein? On partage tout, mais on voit bien, ça passe. Si on offre, ce n'est pas seulement une petite chose, hein? On offre, on met à la disposition de Dieu, eh bien, tout ce que l'on a. Hein? Et ceux qui ont part à mettre leur avoir à l'usage du Seigneur, donnant joyeusement et généreusement des biens moindres, parce qu'ils ont l'espérance des plus grands. Voilà. Ça devrait relativiser, en tout cas, un peu, eh bien, notre instinct de possession. Ça fait partie, c'est constitutif, peut-on dire, eh bien, de l'offrande, de l'oblation, qui est au cœur de l'Eucharistie. De ne pas garder uniquement pour soi, de façon captative. Et alors, la phrase continue. La veuve pauvre jetant ici toute sa subsistance dans, eh bien, le trésor de Dieu. Autrement dit, entrer dans l'Eucharistie, c'est d'une part, eh bien, ça s'épanouit en action de grâce et dans une liberté à acquérir, eh bien, vis-à-vis de ses propres biens matériels. Et le texte continue, hein. Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Autrement, et vous allez voir, et en prêtant à Dieu, celui-ci reçoit de Dieu en retour ses propres biens. Vous le voyez, déjà, c'est Justin, il était dit à la fin de la célébration, eh bien, on partageait avec la veuve, l'orphelin, les pauvres. Autrement dit, il y a une dimension, hein, on a toujours à redécouvrir, d'un partage. Hein. Le Christ partage son corps et son sang. Il y a aussi, on voit bien, pour Justin, ça fait partie du fait d'être un homme libre, eh bien, de partager de ses biens matériels. Et je vous disais, tout sacrifice, d'une façon ou d'une autre, implique une mise à part. Hein, pour faire passer dans un autre ordre que celui de notre usage de tous les jours. Eh bien, ici aussi, voyez-vous, ça fait partie, peut-on dire, de ce qu'il fait d'être un homme libre qui célèbre l'Eucharistie. Et c'est à ce moment-là, comme dans un seul souffle, eh bien, que eh bien, Irénée rappelle le texte de Matthieu 25. Venez, les bénis de mon Père, recevez leur royaume, car j'ai eu faim, j'ai eu soif, et vous m'avez accueilli. Donc, voilà, être libre, c'est tout de même aussi, ça implique, ça ne veut pas dire qu'on se défait de tout, mais au moins un certain détachement affectif, et en vue d'un partage, et qui fait partie, si on peut dire, eh bien, de l'oblation des hommes libres. Une autre des forces que j'ai relevée là, c'est que... je ne l'ai pas marqué ici, mais enfin, ça c'est important aussi, parce que je vous disais, au point de départ, que bon, la loi de la prière, ce que l'on fait, ce que l'Église fait, eh bien, engage ce qu'elle croit. Hein? La loi de la prière et la loi de la foi. Et donc là, à ce niveau-là, Irénée dira, pour nous, notre façon de penser s'accorde avec l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. Donc, manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. Et alors, en quoi est-ce qu'elle confirme notre manière de penser, hein? C'est qu'au fond, eh bien, on offre à Dieu, eh bien, les produits, eh bien, qui sont de la création elle-même. Autrement dit, c'est déjà dire, voyez-vous, affirmer contre, hein, même pour nous, hein, soit qu'on voit, on voit le monde de point de vue uniquement chimique, hein, ou alors qu'on voit uniquement comme le faisaient ces gnostiques dont on parlait, là, comme, hein, le monde comme l'univers du mal, par exemple, hein, du péché. L'Ancien Testament, hein, comme étant évalué par rapport au niveau, eh bien, il y a affirmé l'Eucharistie, c'est affirmé, dirait-il, le rapport qu'il y a, hein, entre le Créateur et le Verbe, entre le Père et le Fils. Hein. Autrement dit, eh bien, le rapport qu'entretient en deux de toute éternité le Dieu Créateur et le Verbe par qui tout a été fait. Seule l'Église offre l'oblation véritable en offrant au Créateur, dans l'action de grâce, les biens qui viennent de lui. Nous avons là, peut-on dire, hein, sans, dans les faits, hein, et même pour nous aussi, hein, c'est tout de même reconnaître, on en a besoin aussi parfois de voir qu'il a nous rappeler que la création elle-même n'est pas seulement quelque chose qu'on manipule, elle est aussi, elle est à recevoir comme l'œuvre du Créateur. Elle a sa bonté intrinsèque. Et alors, voilà, hein, c'est ainsi, eh bien, que c'est cela que l'on offre. Et je vous lis une phrase, parce que rien qu'on peut lire Irénée pour le goûter lui-même. Hein. Alors, il parle de ceux, autrement dit, qui font une division. Hein. Il dit, comment auront-ils la certitude que le pain eucharistique est le corps de leur Seigneur et la coupe son sang, s'ils ne disent pas qu'il est le Fils de l'auteur du monde, c'est-à-dire son Verbe, par qui le bois fructifie, les sources coulent, la terre donne d'abord une herbe, puis un épi, puis du blé, et enfin, plein d'épi. Autrement dit, le Verbe, celui qui est là, n'est pas seulement... Il est celui qui porte et qui fait vivre les choses, hein, qui fait fructifier le bois, qui fait couler le feu. Hein. Seul ce qui a été créé par le Verbe... Voilà, c'est la phrase suivante. Seul ce qui a été créé par le Verbe peut devenir, dans le pain eucharistique, son propre corps. Autrement dit, il y a une identité entre la parole qui a créé toute chose, par qui toute chose a été créée, hein, eh bien, le Verbe incarné, eh bien, tel qu'on l'a, eh bien, dans son corps et dans son sang. Et on en arrive à ceci, hein, c'est ça qui est important, voyez-vous. Hein. Là, l'autre leçon, parce que je pense que c'est ça, hein, c'est que, eh bien, c'est le don de l'immortalité. Hein. Autrement dit, hein, l'Eucharistie que nous célébrons, le corps et le sang et qui deviennent le corps et le sang, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, et bien comme tel, et bien sont le garant de notre incorruptibilité et finalement, et bien de notre résurrection. Julie. Comment peut-il dire encore que la chair s'en va à la corruption et n'a point part à la vie, alors qu'elle est nourrie du corps et du sang du Christ? Car de même que le pain qui vient de la terre, le pain vient de la terre, hein, souvent, là, hein, germe, hein, comme les pics de blé et tout ça, hein, donc comme le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, l'épiclèse de Dieu, après avoir reçu la prière, hein, d'action de grâce. Alors, après avoir reçu la... n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie. On a encore le mot, on avait c'est juste. Hein? Et Eucharistie est constituée de deux choses. L'une terrestre, le pain, et de l'autre côté, la parole céleste, c'est-à-dire la parole du Christ. Jésus-Christ. Et de même, nos corps qui participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles parce qu'ils ont l'espérance de la résurrection. On dit ça, croire à la résurrection, le garant, peut-on dire, pour Irénée, c'est précisément eh bien, la manière dont, dans l'Eucharistie, eh bien, l'élément céleste vient s'adjoint à l'élément terrestre, le pain, et nous donne eh bien, le corps et le sang du Christ. Alors, il y a cette autre phrase que je lis, c'est intéressant. Il boit de la vigne après avoir été couché dans la terre, porte du fruit en son temps. Vous voyez, la germination et de la vie, les choses. Et que le grain du froment, après être tombé en terre et s'y être dissous, ressurgit, multiplié. Ensuite, grâce au savoir-faire, il devient à l'usage des hommes. Et finalement, il devient le corps et le sang du Christ. Voilà. De la même façon, la phrase, nos corps, qui sont nourris par cette Eucharistie, après avoir été couchés dans la terre et s'y être dissous, ressusciteront à leur temps, lorsque le Verbe de Dieu gratifiera d'incorruptibilité eh bien, ce qui est corruptible. Voilà, autrement dit, dernière leçon, vous le voyez bien, on parle, c'est avec Irénée, c'est une même idée de ce qui est offert, ce qui est l'oblation elle-même, la chose elle-même, pour ce qu'elle implique comme détachement, même vis-à-vis des autres, et alors comme un garant, peut-on dire, eh bien, de notre propre résurrection. Voilà, eh bien, pour ce qui regarde, on peut dire, Irénée. Vient alors donc Augustin. Bon, il y a deux siècles qui nous en séparent. Vous en avez déjà entendu parler. Et alors là, on voit avec Augustin, autant Irénée partait de ce qu'on offrait. Avec Augustin, eh bien, on part, si on peut dire, de la manière dont l'Église elle-même s'exprime, eh bien, dans l'oblation. On dit, elle s'offre elle-même dans le sacrement de l'autel. Donc, avec Irénée, ce que l'Église fait, avec Augustin, ce qu'elle est elle-même dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle offre. Alors, ici encore, nous en sommes, alors, tout comme à sa façon qu'il avait fait Irénée, Augustin va distinguer entre les sacrifices visibles et ce qu'il appelle le sacrifice invisible. Bon, par sacrifice visible, il faut d'abord entendre eh bien, les sacrifices de l'Ancien Testament. On dit les sacrifices d'animaux que l'on faisait, ou encore, eh bien, ne serait-ce que même de farine, tout cela. Enfin, donc, qui étaient donc des sacrifices visibles. Et alors, eh bien, l'autre, il faudra voir en quoi consistent les sacrifices invisibles. Lui aussi, alors, Augustin fait remarquer, c'est la définition même du sacrifice, c'est que tout sacrifice s'adresse à Dieu. A-t-on jamais pensé offrir des sacrifices à un autre qu'à celui qu'on sait, qu'on croit ou qu'on imagine être Dieu? Vous voyez le fait même, je dirais, de participer à la messe, de s'unir, eh bien c'est déjà une affirmation que Dieu existe. Pour ceux pour qui maintenant sont complètement insensibles à Dieu, on voit bien que dans sa dimension verticale, bien, le sacrifice n'a pas de sens. C'est du temps perdu et des choses plus utiles. Mais alors, Voilà, texte continue. Et là, vous reconnaissez notre ami Vergotte. C'est encore Augustin qui parle. Le sacrifice n'est pas à faire pour subvenir aux besoins de Dieu, mais subvenir aux besoins de l'homme, pour l'homme. Le texte continue. Tout culte légitime qu'on rend à Dieu profite à l'homme et non à Dieu. Le texte continue et concourt au bonheur de l'homme. Hein? Bonheur de l'homme. Donc, il y a des signes visibles. C'est les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Et bien qu'on ne pratique plus de nos jours. Et qui sont uniquement, alors il dira, la figure, le signe, la phrase qui suit, des œuvres qui s'accomplissent parmi nous en vue de nous unir à Dieu et de porter vers lui notre prochain. Je reprends la phrase. Ils sont le signe des œuvres, on va voir un peu plus précisément, qui ne semblent pas avoir un aspect sacrificiel, cultuel, des œuvres qui s'accomplissent parmi nous, les bonnes œuvres, peut-on dire, en vue de nous unir à Dieu et de porter vers lui notre prochain. Donc, de ce point de vue-là, les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux, voilà, étaient un signe, étaient un sacrement. C'était, c'est une définition que Augustin donne du sacrement, ils étaient les signes sacrés de ce sacrifice invisible et dont nous allons parler maintenant. Alors, en quoi consiste ce sacrifice invisible? Voilà, encore une fois, Augustin reprend le psaume 50, la cœur contrit, dont il était parlé. Lui aussi va reprendre eh bien, le texte de Osée. Je ne veux pas les sacrifices, mais je veux la miséricorde. Autrement dit, les sacrifices d'animaux et tout ça devaient être, autrement dit, remplacés en temps opportun et déterminé. Et alors, eh bien, par ce qu'on appelle l'économie nouvelle dans le Christ. Et pourtant, même si les sacrifices de l'Ancien Testament étaient là, ils sont dépassés maintenant, eh bien, ils portaient en eux-mêmes aussi un enseignement sur le sacrifice vrai et parfait. D'abord, ils rappelaient que tout sacrifice s'adresse à Dieu. Offre à Dieu un sacrifice de louange. Et deuxièmement, ils rappelaient que le vrai sacrifice concourt au bien de celui qui l'offre, ainsi qu'à son prochain. Et là, il citait Michée. Que peut demander le Seigneur, sinon, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, être prêt à marcher dans les voies du Seigneur. Donc, je répète, et on prend tous les Anciens Testaments, on voit bien que Lyon, Irénée de Lyon, si Dieu refusait, il donnait donc un bon conseil pour éduquer tout, et bien ici, il dira ceci, toutes les prescriptions divines de l'Écriture, de l'Ancien Testament, sont les signes, les figures, finalement, qui se rapportent à l'amour de Dieu et du prochain. À Dieu et pour l'homme, pour le prochain. Vous voyez bien, vous vous rappelez, j'avais dit la première heure, ne serait-ce que cela, il donne son corps pour la multitude. Autrement dit, c'est le pour est important ici. C'est que tu fais le sacrifice à Dieu et pour les autres. Et alors, il en arrive, donc on revient, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Qui est le véritable sacrifice. Et alors il en arrive à cette définition. Le vrai sacrifice est donc toute œuvre, je parlais des œuvres tout à l'heure, toute œuvre de notre part qui contribue à nous unir à Dieu dans une sainte société, c'est-à-dire à faire qu'on soit ensemble avec lui. À savoir toute œuvre rapportée à ce bien suprême, grâce auquel nous pouvons être heureux. On voit bien le but du sacrifice pour Augustin, eh bien c'est le bonheur, qu'on soit heureux. Bon, voilà, sacrifice, hein, après, voilà, qui est une chose divine, hein, parce que vous voyez bien, il peut se faire des sacrifices. Hein. On peut, d'un point de vue humaniste, je vois, je pense, un philosophe, Luc Ferry, je ne sais pas trop, qui a voulu remettre en valeur la notion de sacrifice. Il reste que le sacrifice, comme dit Augustin, est une res divina, hein, est une chose. C'est pas, l'altruisme à lui seul ne suffit pas. Il doit y avoir une référence à Dieu, ne serait-ce que pour, eh bien, pour pouvoir, être pour les autres, comme le Christ lui-même qui s'est offert pour nous. Et donc, de ce point de vue-là, au point de départ, peut-on dire, ben, il serait pour nous, il y a la grâce du baptême, hein, qu'il définit comme ceci, l'homme consacré par le nom de Dieu et voué à Dieu. Grâce au baptême, c'est ça. En tant qu'il meurt au monde pour vivre de Dieu, est lui-même un sacrifice. Je répète la phrase. L'homme consacré par le nom de Dieu et voué à Dieu, en tant qu'il meurt au monde pour vivre à Dieu, est un sacrifice. Avant même de tuer quelque animal que ce soit. Hein? Voilà. Et alors, voilà, donc c'est la conclusion. Et alors, voilà, le texte continue ensuite. Hein? Ça, c'est Augustin. Hein? Alors, il prend, hein, un passage, enfin, pour y aller voir, Romains 12, versets 1 à 12. Hein? Et alors, il rappelle, enfin, c'est Paul qui rappelle en appelant à la miséricorde de Dieu, et d'abord, hein, eh bien, saint Paul supplie d'abord d'offrir votre corps en hostie sainte, agréable à Dieu, hein, comme un hommage, hein, raisonnable ou encore un culte logique. Oui, ça passe. D'être capable d'offrir son corps. Hein, voilà. Non seulement d'offrir son corps, mais en même temps, eh bien, d'offrir son âme à Dieu. Hein. Et bien, tout simplement, alors là j'ai une phrase de Bustin pour dire à quoi consiste offrir son âme à Dieu, mais c'est plus simple quand vous regardez dans Romains. Hein, hein. En effet, combien plus l'âme elle-même était le sacrifice quand elle se réfère à Dieu, afin qu'enflammée du feu de son amour, elle dépouille la concupiscence de ce siècle et se réforme selon Dieu en soumettant à lui l'immuable forme et en lui devenant semblable. Donc, on voit bien, ça passe par l'offrande de son corps et de toute la personne. Ça passe aussi, eh bien, par l'offrande de son âme. Et alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est ce qui est intéressant. On voit que tout tourne, hein, ou tout change. Hein, on passe sur un autre registre. Hein, et je lis. D'où il s'ensuit, suite à cette offrande qu'on peut faire de nous-mêmes, hein, de notre corps, de notre âme, il s'ensuit, hein, que la cité entière, tout entière, je me suis offert, mais c'est l'Église, quoi, c'est la société entière, c'est-à-dire l'Assemblée et la société, ben, des saints, là nous sommes, eh bien, que la cité entière est offerte à Dieu. On pense s'offrir, de fait, on est offert. Hein? Elle est offerte à Dieu en sacrifice universel. Non pas comme pour un peuple, hein, hébreu, mais par le grand prêtre qui, pour faire de nous le corps d'une si grande tête, est allé, lui, jusqu'à s'offrir pour nous, dans sa passion, sous la forme d'esclaves. Autrement dit, à l'arrière-plan, le sacrifice, nous sommes là au sacrifice invisible, peut-on dire. J'arriverai après ça au sacrifice visible. Alors, le sacrifice invisible, voyez-vous, c'est tout de même de s'offrir et de découvrir qu'en s'offrant, eh bien, c'est le Christ lui-même qui nous prend dans son offrande. Hein? Et le texte continue. Alors, pour aller pour nous dans sa passion sous la forme d'esclave, c'est-à-dire la forme de son humanité, une condition humaine, voilà. C'est celle-ci, donc, cette forme d'esclave, hein? Notre humanité, notre condition humaine, c'est elle qu'il a offert, qui lui-même a offert. C'est en elle, non, il l'a offert, c'était l'oblation. C'est en elle qu'il s'est offert, parce que c'est lui qui se ferait en offrant la forme humaine. Continue. Parce que c'est grâce à elle, grâce à la forme humaine, hein, lui qui est tout de même, hein, à sa mort, incarnation et tout, c'est grâce à elle qu'il est médiateur. C'est évident. Grâce à elle, il devient médiateur entre Dieu et les hommes. En elle qu'il est prêtre et en elle qu'il est sacrifice. Voilà. En assumant notre condition humaine, hein, eh bien, le Christ lui-même hein, se fait, on veut dire, cette affaire et se fait sacrifice. Et c'est ainsi, c'est lui qui, de fait, eh bien, nous prend lorsque, de notre côté, eh bien, tant peut-être pas toujours, nous offrons nos corps, ou encore, eh bien, nous offrons, eh bien, notre cœur. Hein? Et alors, il dit, il y a cette phrase, parce que le sacrifice, en sa totalité, c'est nous-mêmes. Non, seulement, voyez-vous, hein? Hein? C'est nous-mêmes. Hein? Et alors là, il continue, hein? Voilà, la phrase continue. Hein? Alors, ça revient à dire ceci, eh bien, même si on est non, on parlait du corps du Christ. Hein? Le corps du Christ, eh bien, qui est tout de même, eh bien, qui est lui-même offert pour nous et en qui, eh bien, il est médiateur entre Dieu et les hommes. Eh bien, nous aussi, eh bien, c'est une phrase clé aussi chez Augustin, celle-là. Hein? Parce que même si on est différent, même si on est nombreux, nous sommes un seul corps dans le Christ. Hein? Et chacun en particulier, nous sommes les membres les uns des autres, avec la diversité des dons hein, qui sont donnés aux uns et aux autres. Voilà, pour Augustin, le sacrifice vrai, le sacrifice parfait. On pourrait dire le sacrifice invisible par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. Hein. Il n'y a pas d'animaux hein, qui sont immolés, qui sont abattus. Et ce qui était là, ce qui est dans le testament, dit sous la forme d'animaux, ben voilà, c'est à la manière dont nous sommes unis au Christ lui-même, qui s'est fait hein, victime, hein, en même temps, eh bien, qui s'est donné. Voilà. Alors, vient la phrase suivante, hein, si vous voulez. Eh bien, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il en est ? Parce que je vais tout de même parler de l'Eucharistie, là, hein. Et alors, ben voilà, et moi, alors il dit à ce moment-là, le sacrifice dont je viens de parler, et qui est nous, le sacrifice dont on respire, on devrait respirer en un sens. Et alors Augustin dit, et ce sacrifice, l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel. Hein? La chose, peut-on dire, eh bien, le sacrement de l'autel en est le signe. Nous le rappelle. Je rappelle, hein, l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel, bien connu des fidèles, donc bien connu de chacun d'entre nous, où il est montré que dans ce qu'elle offre, elle est elle-même offerte. Hein? C'est un acte de l'Église, hein? Une action de l'Église. Et pourtant, en même temps, cet acte de l'Église, eh bien, il est porté par le Christ. Hein? Dans ce qu'elle offre, elle est elle-même offerte. Je reprends une autre phrase, hein, du Nain encore, et bien d'Augustin. Et vous voyez, comme ça, le sacrement de l'autel est là pour nous rappeler quelque chose qui devrait faire notre vie chrétienne de tous les jours, hein, qui devrait nous conforter dans notre vie chrétienne de tous les jours, hein, qui devrait tout simplement, eh bien voilà, c'est dit, hein, le Christ a voulu que soit sacrement quotidien de cette réalité, voyez-vous, hein, cette réalité, eh bien, cette offrande de nous-mêmes, notre corps, notre âme, qui, en s'offrant Dieu, nous met dans une, nous fait une communauté, hein, une société sainte, on dit, l'Église. Voilà. Le Christ a voulu que soit sacrement quotidien de cette réalité, le sacrifice de l'Église, qui, de l'autel, qui, étant le corps dont il est la tête, apprend à s'offrir elle-même par lui. Autrement dit, l'Eucharistie, le sacrement de l'autel, hein, ce que nous faisons eh bien, chaque dimanche, hein, en reprenant, eh bien, nous apprend à s'offrir, hein, eh bien, par lui, hein, puisque c'est lui qui nous offre. C'est lui qui se trouve au point de départ. Donc, on est là, vous le voyez, je reste là. Ça peut surprendre. On s'attendait à partir de l'Eucharistie pour en parler ensuite de ce que c'est que la vie chrétienne. On voit qu'au point de départ, et c'est ça, le sacrifice invisible par rapport à ceux de l'Ancien Testament, qui étaient des animaux et tout, mais ça se réalise, hein, dans ce qui devrait faire notre vie chrétienne, hein, portée par le Christ. Et le sacrement de l'autel, tel que nous l'avons le dimanche, bien voilà, il nous rappelle. Hein, il nous montre que dans ce que nous offrons, eh bien, nous sommes nous-mêmes offerts. Autrement dit, le sacrement de l'autel apprend à l'Église, à chacun d'entre nous, à s'offrir, hein, eh bien, par le Christ lui-même. Puisqu'au fond, eh bien, vous voyez, il y a une attraction. Mais derrière, hein, à la messe, il y a ce que le Christ fait. Hein, même, hein. On ne prend pas sa place, hein, mais il passe par bien précisément par et bien ce que l'Église fait. Mais c'est tout de même son sacrifice à lui. Hein, c'est son oblation à lui. Voilà. Je dis seulement un petit mot pour terminer, parce que ça va nous mener graduellement vers la prochaine. Vous le voyez bien, je l'ai marqué avec on est avec les pères de l'Église ici, hein, voilà. Où toutes les choses, eh bien voilà, il les voit comme une totalité, comme telle, quoi. Hein. Il n'est pas encore tellement, on voit bien que c'est très clair, hein, que Augustin même, il nous met devant, nous souvenant de sa mort et de sa résurrection. Il est évident, hein, qu'il nous met devant, eh bien, la manière dont, dans son humanité, hein, le Christ, eh bien, lui-même, est mort et ressuscité, hein, en se donnant pour nous. Mais ce n'est pas la première chose qui vient. Alors qu'on arrive au deuxième millénaire, hein, il y a tout de même l'espace, eh bien, donc, de 1000 ans. Il y a tout de même le fait qu'on passe dans de nouvelles cultures, peut-on dire. Hein. C'est plus le monde latin comme tel, on pourrait presque dire, c'est le monde, enfin, des pays nordiques. Teutons, germains, tout ça, hein, bon, là, hein, qui ont beaucoup moins le sens du symbole, mais beaucoup plus le besoin de voir, de toucher. Hein, l'affectivité joue encore beaucoup plus grandement à ce moment-là. Hein, il y a la distance aussi du temps. Hein, on voit qu'à partir de maintenant, d'ailleurs, on commence à découvrir, maintenant, vous étiez peut-être un peu dépaysé, qu'est-ce que je disais là? Là, avec Augustin, avec cet homme, même sans s'en rendre compte, on rentre dans notre monde, quoi, hein, où on parle du Saint-Sacrifice de la Messe, hein, où on est là à voir, on fait la distinction entre ce qui s'est passé à la croix, hein, et pourtant, eh bien, la manière, autrement dit, comment surmonter cela dans le sacrifice de la Messe, hein. On arrive à l'idée, voyez-vous, que eh bien, la messe elle-même, d'une façon ou d'une autre, eh bien, c'est une. Elle est commémoration. Elle est évidente, elle est mémoriale du sacrifice de la croix. Mais en même temps, eh bien, elle est une représentation, du sacrifice de la croix. Il y a 5 minutes, juste pour vous faire entrer un peu, je n'entre pas dans. Vous voyez bien, on voit qu'avec saint Thomas, il y a une idée importante qui est à retenir. Il va parler du sacrifice. À certains points de vue, le texte de Irénée, même celui de Augustin, on n'y trouvait pas le mot péché. Alors que maintenant, ben, le Christ est même mort pour nos péchés. Et on voit bien, la messe, eh bien, elle n'est pas seulement, elle est pour rendre grâce à Dieu, elle est sûrement le devoir que nous avons, l'honneur que nous lui devons, mais alors vient alors un mot nouveau, nouveau, faut s'entendre, mais alors extrêmement important, c'est que si on offre le sacrifice, c'est pour rendre honneur à Dieu, mais alors, dira saint Thomas, c'est aussi pour l'apaiser ou encore se le rendre propice, autrement dit, par rapport au péché. Vous voyez, là, je sors un mot un peu barbare, mais qui serait important, par la suite, c'est que la messe a un caractère propitiatoire, c'est-à-dire, elle est tout de même, eh bien, implorer que Dieu soit propice par rapport, je dirais, à nos péchés et à nos offenses. Enfin, restons-en là, mais on voit qu'on entre dans un nouveau monde. Là, seulement, juste 5 minutes, pour vous dire seulement, je parlerai la fois prochaine, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, je dis déjà un petit mot, c'est que les choses changent, on passe alors. Et une chose qui est remarquable, voyez-vous, c'est que, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a deux choses qui paraissent. La première, ce serait le désir de voir l'hostie. Autrement dit, il y a une nouvelle piété liturgique et qui entre en scène et qui va aussi apporter, eh bien, toute une théologie, avec des apports positifs, mais aussi avec des déformations. Autrement dit, on devient beaucoup plus attentif, on pourrait dire, à l'humanité du Christ. On a une dévotion au Christ présent à l'autel, quoi. Et alors qu'il va aller de pair avec un respect toujours, croissant à l'égard du Saint-Sacrement. Paradoxe, pour vous, c'est que c'est un moment où on ne communiera pratiquement plus. Et pourtant, on veut voir. On veut voir l'hostie. C'est le moment, voyez-vous, jusqu'alors, jusqu'au début du deuxième millénaire, on avait, comme dans les églises d'Orient, il y avait la réserve eucharistique. Mais elle était, bon, elle était dans la sacristie, peut-on dire, qu'on pouvait être derrière l'iconostase. Eh bien maintenant, il y a le tabernacle. Il faut bien un tabernacle pour qu'on puisse voir qu'elle soit à la piété des fidèles. Alors, en même temps, un grand respect qui fait que, eh bien, on va abandonner la coutume de communier dans la main. Et alors, et même à l'encontre de ce qui était tout de même la pratique de la communion des fidèles au calice. Et alors, on ne communie plus que sous une seule espèce, et alors vient l'idée, la pratique de se mettre à genoux pour communier. Voilà, c'est tout. On arrive devant un nouveau. Bon. Puisque je parle, je reviendrai là-dessus la fois prochaine. Enfin, mais enfin, je reviens seulement puisqu'on parle de, on veut parler d'abord du sacrifice de la messe. Et je vous disais, voyez-vous, ça a besoin de visualiser, ça a besoin de toucher. Ça a besoin, autrement dit, mais pratiquement, de s'imaginer les choses. Alors, la messe, elle devient jusqu'à un certain point une allégorie, c'est-à-dire une manière de raconter le sacrifice de la croix. Vous l'aviez passé avec Augustin tout à l'heure. Autrement dit, du début à sa fin, à travers les gestes, les couleurs, les vêtements, la messe se déroule sous les yeux des fidèles, pratiquement comme un spectacle, ou comme une dramaturgie, où l'ensemble de la vie du Christ, et surtout sa passion, parce que ça n'est que la passion, se trouve reproduit. Autrement dit, ça devient une, avec ce que ça peut avoir de beau, une représentation de la croix. Et alors, bien entendu, par Noam, je ne me rappelle plus, enfin j'avais ça enfin, dans l'ancienne liturgie, avant de passer, il y avait beaucoup de... Il y avait neuf fois où on était là à bénir le pain, le vin, bon. C'était censé représenter, je ne savais pas, non, neuf moments, peut-on dire, de la passion. L'inclination de l'assistance au Te Deum, c'était au début du canon de la messe, signifiait la tristesse des disciples lors de la passion. Les trois signes de croix après le Te Deum, parce qu'il y avait ça, voilà, c'est le début du canon. La triple raillerie du grand prêtre d'Hérode et de Pilate. Voilà. L'extension des mains à la consécration. Bon, c'est la position du crucifié. L'élévation de l'hostie à la doxologie finale. C'était comme l'enlèvement du cadavre de Jésus par Joseph d'Arimathie. Et pour le mettre au tombeau. Autrement dit, vous le voyez bien, la messe, ces gestes, tout ça, devenait, voyez-vous, maintenant, comme autant de gestes qui devaient inciter des sentiments de compassion, de compaction, celles qu'on aurait eues si on s'était trouvé, vous et moi, comme les bonnes âmes pieuses que nous sommes, vous et moi, sont été trouvés au pied de la croix. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, la plus importante, parce qu'elle va avoir une grande influence, et là je vous quitte, c'est que voyez-vous, à partir de ce moment-là, eh bien, on assiste à un développement des messes dites privées, à des intentions les plus diverses, avec des motivations souvent au moins aussi superstitieuses que religieuses. Autrement dit, la messe devient recommencement incessant du drame de la passion, destiné à nous obtenir des grâces particulières et à intercéder pour les fidèles. Enfin, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est tout à fait juste, si vous regardez le canon romain, il y a tout de même, à un moment donné, on prie pour les fidèles défunts, on prie aussi, eh bien, pour nous et pour... Donc, voilà, donc, que la messe soit aussi pour prier pour les autres, ça, elle l'est depuis le 4e, 5e siècle, c'est pas le point, mais on voit que ça devient maintenant, eh bien, ce qui est. Et alors, du coup, aussi, voyez-vous, les abus, qui pouvaient s'en suivre. Les intentions de messe, de pouvoir, autrement dit, d'être rémunéré pour les messes elles-mêmes. Et alors, eh bien, c'est ce genre d'œuvre, opus, peut-on dire, et eh bien, de type de messe, dite privée, que Luther va qualifier de messe papiste, et contre laquelle, bien, il va s'insurger. Il y a beaucoup de bonnes choses. Je pourrais peut-être paraître caricaturé, mais l'important, c'est de voir que, tiens, on passe à un nouveau millénaire, à une nouvelle sensibilité. Là, je vous le disais par rapport au fait que c'est la croix, mais enfin, en même temps, par rapport à l'hostie, ben, voir l'hostie. C'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à voir la sonnette. Et alors, même la cloche de l'église, pour que les gens viennent des champs, voir l'hostie elle-même, ce sera le moment aussi de l'adoration, la fête du corpus Christi qui va arriver, voyez-vous tout ça, tout, et à un moment, avec la devue du deuxième millénaire, l'Église, enfin, disons, ça passe aussi par la sensibilité chrétienne, avec au moins des aléas, des choses qui sont bonnes, et d'autres, maintenant, qui vont poser problème. Donc, nous en restons là, mais vous voyez bien, en tout cas, que nous sommes les cinq dernières minutes où je vous ai parlé, dans un autre monde que celui où on était avec Irénée ou encore avec Augustin. Donc, la fois prochaine, ce sera donc là. Hein, on est au cœur à ce moment-là, c'est la contestation de Luther contre la messe.